Radio Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute du grand rendez-vous de l'actualité. Les faits majeurs du jour, les enjeux essentiels, une information rigoureuse, crédible et mise en perspective. Ici, l'essentiel s'écoute, se comprend et éclaire. Bienvenue sur Radio Kapi, la radio de la paix. Le titre du journal. Paix et sécurité au cœur des échanges. La République démocratique du Congo et les Nations Unies renforcent leur coopération pour la stabilité du pays lors d'une rencontre stratégique entre la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et le chef de la MONUSCO, James Swan, à Kinshasa. Naufrage sur le lac Tanganyika. 7 morts officiellement recensés dans le naufrage d'une pirogue sur le lac près de Kalemi. La surcharge et un vent violent pointés comme cause possible. Hausse des demandes d'asile, la Belgique s'explique. La ministre belge de l'asile et des migrations, Anneline Van Bossoyt, invitée de la rédaction, évoque depuis Kinshasa l'augmentation du nombre de Congolais sollicitant l'asile en Belgique et les enjeux migratoires bilatéraux. Gisèle Cage à la présentation. La diplomatie au service de la paix ouvre ce journal. À Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, James Swan, a été reçu ce mardi 14 avril par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. Au cœur des échanges, le renforcement du partenariat entre la RDC et les Nations Unies à un moment clé où paix, stabilité et sécurité reste plus que jamais de priorité pour le pays. Jude Mister Bilonda pour les détails.
Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la RDC et les Nations Unies ainsi que sur la nécessité d'assurer une coordination étroite entre les initiatives diplomatiques, les mécanismes régionaux et les réalités humanitaires et sécuritaires sur le terrain. À cette occasion, James Swan a exprimé son honneur de retrouver la RDC et a salué l'engagement diplomatique du pays ainsi que les efforts déployés pour consolider sa position sur la scène régionale et internationale. Le chef de la MONUSCO a également réaffirmé la disponibilité de la mission à poursuivre une collaboration étroite avec le ministère des Affaires étrangères dans un esprit de confiance, de respect mutuel et de partenariat constructif. Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir une approche cohérente et coordonnées afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires et humanitaires et de soutenir les efforts en cours en faveur d'une paix durable en République démocratique du Congo.
La paix se négocie pendant que les armes parlent encore. Ce lundi 13 avril, le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 sont de retour à la table des discussions à Genève, en Suisse. 9e ronde de pourparlers après plusieurs semaines de silence diplomatique. Mais sur le terrain, la réalité reste brutale. Les combats se poursuivent dans certaines zones du Nord Kivu et du Sud Kivu. Maintenant, la pression sur ce pourparler est relancée. Que faut-il attendre de ce nouveau face-à-face? Les détails avec Martial Papi Mukeba.
Selon plusieurs sources, la délégation de l'AFC M23, composée de plusieurs de ses hauts cadres, est conduite par René Abandi, négociateur principal et secrétaire permanent de la rébellion. Côté gouvernement, la délégation est dirigée par Sumbu Sitamambu, haut représentant du chef de l'État congolais. Les États-Unis prennent part aux discussions en tant que facilitateur, tandis que la MONUSCO participe à cette nouvelle phase en qualité d'observateur, précise nos sources. Cette reprise des négociations intervient après la signature le 14 octobre 2025 à Doha au Qatar des mécanismes conjoints entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais destinés à vérifier le respect du cessez-le-feu. Ce mécanisme vise à faire taire les armes et à ouvrir la voie à des discussions sur les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC. Cependant, sur le terrain, les combats se poursuivent dans certaines zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, accentua les déplacements des populations et leurs souffrances. Plusieurs sources évoquent une phase qui devrait permettre d'avancer sur des questions de fond du conflit entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et pendant que le dossier sécuritaire se discute à l'international, d'autres discussions majeures se jouent cette fois-ci au cœur des institutions. À l'Assemblée nationale, feu vert politique pour les accords de Washington. Le projet de loi autorisant leur ratification ont été jugés recevables ce lundi par les députés. Deux textes majeurs sont en jeu. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et un accord stratégique entre Kinshasa et Washington. Face aux élus, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, défend ces accords comme un pari sur la stabilité régionale et un tournant stratégique pour le pays, notamment dans les secteurs des minéraux critiques, de l'énergie, des infrastructures et de la sécurité. Décryptage avec Grace Amzati, notre permanent au Parlement.
Au cours des débats, les députés de la majorité ont salué l'importance de ces accords pour le pays, tout en appelant au respect strict des engagements, notamment par la partie rwandaise. Patrick Matata, élu de Kisangani et membre de l'UDPS.
À travers cet accord de paix, il est donc clairement établi que les marionnettes qui disaient défendre les intérêts congolais ne peuvent que se cacher derrière le Rwanda. L'accord de partenariat stratégique est une véritable technologie de développement.
Du côté de l'opposition, des préoccupations ont été soulevées, notamment sur la transparence et la protection des ressources nationales. Célestin Moussa Okalombo Mbuyu, élu du Olomami et membre du groupe Ensemble pour la République.
Les Congolais s'interrogent. Est-ce que les ressources sont effectivement protégées? Est-ce que leur avenir est garanti?
La République démocratique du Congo, chers collègues, est entrée dans ce partenariat dans une position structurellement déséquilibrée.
Face à ces inquiétudes, la ministre des Affaires étrangère Thérèse Kayikwamba se veut rassurante.
Il ne s'agit pas ici d'un quelconque agenda caché. La démarche du gouvernement est claire. Il s'agit avant tout de sauver des vies et de créer les conditions d'une stabilité durable.
Au terme des échanges, les deux projets de loi ont été adoptés à une large majorité avec 346 voix sur 355 votants.
Au Nord Kivu, la crise humanitaire s'aggrave dans le territoire de Masisi. Depuis le 27 mars dernier, les affrontements répétés entre l'AFC M23, le FRDC et le combattant Wazalendo ont provoqué des déplacements massifs de population. Près d'une dizaine de villages se sont presque entièrement vidés de leurs habitants. Le groupement d'Ufamandu et de Nyamaboko figure parmi les zones les plus durement touchées. Plus de 10 jours après ce fuite forcée, la société civile Force Vive du secteur de Katoy tire la sonnette d'alarme et évoque une situation humanitaire alarmante pour les personnes déplacées. Le détail avec Bernard Danyangi.
Dans un propre rapport transmis ce mardi à Radio Okapi, la société civile Force Vive du secteur de Katoy fait état d'au moins 5 villages presque abandonnés dans le groupement de Fomando 2 et de 2 autres dans le groupement de Nyamaboko 2 dans le même secteur. Les habitants ont fui le combat survenu entre le 27 mars et le 3 avril dernier, certains se réfugiant dans la brousse, d'autres dans le groupement de Walo Uroba en territoire de Walikale, où ils sont accueillis dans des écoles et des églises. Leurs conditions de vie sont jugées très précaires, selon cette source, évoquant un manque criant de nourriture, de soins de santé et d'abri adéquats. Par ailleurs, entre le 9 et le 10 avril dernier, plusieurs autres villages des groupements du Fomando 1er au Nord Kivu et Ziral au Sud Kivu ont connu le même sort à la suite des combats survenus dans la zone de Tushunguti. Ces déplacés ont eux aussi trouvé refuge dans le groupement de Walo Luanda en territoire de Walikale. La société civile lance un appel à l'aide, soulignant que parmi les déplacés figurent de nombreux enfants et personnes âgées déjà affectées par la faim et diverses maladies dans leur lieu de refuge.
Un crime d'une extrême gravité secoue le cœur de la capitale congolaise. À La Gombe, un homme d'affaires congolais a été froidement assassiné il y a quelques jours dans un immeuble résidentiel très fréquenté. Le ministre de la Justice revient sur ce drame survenu dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 avril 2026 à l'immeuble La Renaissance. Dans un communiqué publié sur son compte X, Guillaume Gueffa confirme la mort d'Amissi Issa Vali, résident à Pretoria Pretoria, en Afrique du Sud. Il a été retrouvé sans vie dans l'appartement numéro 68, dans des circonstances encore inexpliquées. Face à la gravité des faits, le parquet s'est immédiatement saisi du dossier. Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier et poursuivre les auteurs, co-auteurs et complices de ce meurtre. Le ministre de la Justice assure avoir donné des instructions fermes pour que les investigations soient menées avec rapidité et rigueur. Un suspect principal est actuellement activement recherché par le service de sécurité, tandis que plusieurs personnes ayant été en contact avec lui ont déjà été interpellées. Le point complet sur cette affaire avec vous, Alain Hirung.
Des vidéos de surveillance de l'hôtel, largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent d'abord Vali Amissi entrant dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un homme grand et élancé. Ce dernier ressort seul, vêtu différemment et dissimule volontairement une caméra de surveillance à l'aide d'un col isolant. Une autre séquence le montre hésitant à sortir d'un ascenseur, semblant avoir à ses pieds le corps d'une personne. Il renonce finalement à sortir à ce moment-là. Le corps de Vali Amissi sera retrouvé quelques heures plus tard, abandonné derrière un hôtel du secteur du Beach Ngobila. Pour le ministre de la Justice, ces faits, susceptibles d'être qualifiés d'assassinat, appellent une réponse judiciaire exemplaire. Le gouvernement réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Guillaume Guéfa conclut en assurant que toute la lumière sera faite et que les présumés auteurs seront traduits en justice conformément aux lois de la République.
Province du Tanganyika, au moins 7 morts dans un naufrage survenu ce lundi sur le lac Tanganyika près du village Mutakuya à quelques kilomètres des Kalemie. Un bilan officiel mais encore provisoire alors que d'autres sources locales évoquent une dizaine de victimes. La pirogue transportée de passagers et de marchandises aujourd'hui engloutie dans les eaux. Des rescapés ont été retrouvés pendant que les recherches se poursuivent dans l'urgence. Selon les premières informations recueillies sur place, la surcharge de l'embarcation aggravée par un vent violent serait à l'origine de ce drame. À ce stade, le nombre exact de passagers reste inconnu, laissant craindre un bilan plus lourd. Écoutons le ministre provincial de transport du Tanganyika qui revient sur ce naufrage. Les propos de Norris Moulongoy, recueillis par Paulin Munanga.
Il y a eu naufrage ce lundi 13 avril, tôt le matin, sur le lac Tanganyika, dans la zone de Rutuku. Et un bilan provisoire a été établi par nos services, incluant 7 morts. Cette embarcation provenait du village Kasama, où un conducteur s'était hasardé à prendre son embarcation à 4h du matin, alors qu'il y avait un vent violent. Et à 5h, ça a soufflé encore plus, et il s'est renversé dans les lacs. Il y a eu des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Les recherches sont en cours. Et le ministère rappelle également au strict respect des mesures de sécurité sur la voie lacustre. Et nous précisons également, comme la fois dernière, que les mesures sont toujours prises pour renforcer les mesures de sécurité, surtout aux armateurs, pour le port de gilets de sauvetage et une obligation pour quitter son lieu de travail. Mais il se peut que le village Kasama, qui se trouve un peu à quelques distances de Kalemie, puisse avoir des conducteurs qui ne sont pas identifiés et de fraudeurs qui viennent toujours nous causer des problèmes.
Fin de la confusion autour du pont Katusenga au Kasaï central. Le directeur provincial de l'office de route fait la lumière sur l'incident signalé dans les territoires de Demba. John Badibanga précise que le nouveau pont n'a pas cédé. Seule la passerelle provisoire installée à côté pour faciliter le passage de personnes a été submergée par les eaux de pluie. Il assure que les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour remettre cette passerelle en état et rétablir la circulation des personnes et de leurs biens. Parallèlement, les travaux du nouveau pont se poursuivent normalement. Sa livraison à la population est annoncée d'ici un mois. Les explications de John Badibanga, recueillies par André Katende Ngalamoulomé.
Quand nous avons remarqué que l'ancien pont manifestait déjà des fatigues, nous avons souhaité amener le nouveau pont et le placer. Mais la technique de poser le pont nous exige de créer ce qu'on appelle une passerelle pour permettre aux usagers de passer et nous-mêmes aussi de travailler calmement sur les nouveaux ponts. La pluie s'est abattue deux jours sans emporter les remblais de part et d'autre de cette passerelle-là. Mais les travaux, proprement dit, sur les nouveaux ponts, ça continue. Nous sommes en train de travailler. Je vais demander à toute la population qui se calme. Je crois que dans un mois, on termine et j'offre les nouveaux ponts à toute la population. Il ne faut pas avoir des inquiétudes où peut-être l'argent a été bouffé. Bouffé par qui? Nous avons quand même une programmation. Ce qu'on fait, c'est un travail technique. Il y a ce qu'on appelle la courbe de béton. Ça doit prendre le temps pour que ça puisse sécher.
La science et la technique à l'honneur. La 13e édition de la semaine de la science et des technologies démarre ce mardi sous le thème au cœur de gestes techniques. L'événement a été officiellement lancé à Kolwezi, dans la province du Lalaba, par la ministre d'État à l'éducation nationale pour Aïssa Malo Dinanga. La technique ne se limite pas aux chiffres et à la rigueur. Elle est aussi source de créativité et de joie. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hirunga.
Le thème de cette 13e édition, au cœur des gestes techniques, s'inscrit directement dans les orientations du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Ce programme place l'innovation technologique comme un levier de progrès social et de création d'emplois. Toutefois, cette transformation économique repose avant tout sur l'évolution de nos compétences. C'est ici que le plan quinquennal de notre ministère prend tout son sens, en faisant de la modernisation de l'enseignement technique et du numérique une priorité. Car le geste technique est le point de jonction entre la ressource brute et le produit fini, de l'idée à la solution industrielle. C'est par la maîtrise de ce geste que nous consoliderons notre souveraineté économique. Mais ne nous y trompons pas, la technique n'est pas qu'une affaire de rigueur et de calcul. C'est aussi une source immense de joie et de créativité. À travers les ateliers et les démonstrations de cette édition, nous voulons montrer que la science est une aventure passionnante. Elle est le terrain de jeu de l'intelligence et de l'imagination. Aux élèves et étudiants, regardez ces machines, ces codes et ces outils, non pas comme des objets complexes, mais comme les instruments de votre propre liberté.
Actualité internationale.
Malgré le blocus annoncé par Donald Trump, un pétrolier chinois suivi de deux autres sous pavillon panaméen et malgache ont traversé sans incident le détroit d'Ormuz ce mardi 14 avril, selon les données du site Marine Traffic. La veille, le président américain avait menacé d'éliminer immédiatement tout navire lié à l'Iran après le déploiement de deux destroyers américains dans cette zone stratégique. Cette traversée est perçue comme un signal fort de Pékin qui semble ignorer les avertissements de Washington. Le détroit d'Ormuz reste un point névralgique du commerce mondial par lequel transite près de 20% des exportations de pétrole, alimentant les inquiétudes sur une possible escalade des tensions et leurs répercussions sur le marché énergétique.
L'invité.
Séjour de travail à Kinshasa pour la ministre belge de l'asile et de migration, Anneline Van Bossuyt, est en République démocratique du Congo dans un contexte marqué par la forte hausse du nombre de Congolais demandant l'asile en Belgique. Selon les autorités belges, ces demandes ont presque doublé ces derniers mois, passant d'environ 1200 en 2023 à plus de 2500 depuis l'année dernière. Une évolution qui figure au cœur des échanges de la ministre belge lors de sa visite en RDC. À cet instant, Anneline Van Bossuyt est notre invitée. Elle s'entretient avec Donna Madimba.
Madame la ministre Anneline Van Bossuyt, bonjour.
Bonjour.
La Belgique, votre pays, informe que le nombre de Congolais de la RDC qui demandent l'asile sur son sol a augmenté et qu'elle va rejeter ces demandes. Est-ce seulement pour cela que vous, ministre belge d'asile et des migrations, et votre délégation est en ce moment en République démocratique du Congo?
Ben, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis ici. Tout d'abord, bien sûr, pour souligner la bonne coopération entre nos deux pays. La collaboration au niveau de l'asile et de la migration date déjà de plus que 20 ans, qu'on avait un mémorandum avec la DGM signé en 2006. Donc, la coopération est très bonne et j'espère bien sûr qu'on va continuer sur cette voie et j'en suis sûre. J'ai eu de bons entretiens avec le directeur général de la DGM. Donc, je pense que c'est important de continuer sur cette voie de bonne coopération. Et d'autre part, bien sûr aussi, pour donner aux Congolais de la bonne information pour pouvoir venir en Belgique. Et là, on voit malheureusement qu'il y a une explosion des demandes d'asile des Congolais en Belgique. Pour donner quelques chiffres, en 2023, on avait 1250 demandes d'asile de Congolais en Belgique. Deux ans plus tard, en 2025, ce chiffre a doublé. Donc, on a 2500 demandes d'asile et ainsi, les Congolais sont à la troisième place des demandes d'asile en Belgique. On a d'abord l'Afghanistan, après la Palestine et après, donc, à la troisième place, les Congolais. Mais le fait, c'est que seulement 10% des demandeurs d'asile congolais reçoivent de l'asile en Belgique. Donc, je veux souligner ici, et ça c'est la mission de dissuasion, hein, comme vous l'appelez, le fait qu'on ne peut pas recevoir de l'asile en Belgique pour des raisons économique. Donc c'est très important parce que si on demande l'asile sur la base des raisons économiques en Belgique, on va pas être protégé, donc on va pas recevoir la protection internationale et être rentré, on va recevoir un ordre de quitter le territoire et devoir rentrer vers la RDC volontairement si possible, mais avec force si nécessaire.
Mais que répondez-vous, par exemple, aux Congolais qui, malgré ces explications que vous donnez, restent sceptiques que c'est seulement pour réchauffer ou rappeler les bonnes relations entre la RDC et la Belgique que vous êtes là, ou encore juste pour signaler qu'il y a une augmentation des demandeurs d'asile? Que répondriez-vous à ces Congolais qui estiment que probablement il doit avoir une autre mission secrète ou dissimulé, qui justifie votre présence ici?
Bah, je suis une personne honnête, donc je dirais pas d'autre chose que la vérité. Donc c'est vraiment pour ça que je suis là. Je pense que c'est très important que les gens ont la bonne information, parce que les gens qui viennent en Belgique pour demander de l'asile et ne le reçoit pas, vont tomber dans la précarité, et on doit vraiment éviter ça. Je veux pas de l'abus de l'asile, parce que l'asile n'a pas pour but de protéger les gens pour des raisons économiques. Les conditions sont très clairement définies dans la Convention de Genève. Donc, on doit éviter que les gens entreprennent un voyage vers la Belgique pour des raisons qui sont pas les bonnes raisons, ou que les gens ont de faux espoirs, parce que comme ça, les gens vont peut-être penser qu'ils vont pouvoir séjourner en Belgique, et ce sera pas le cas. Les gens qui veulent venir en Belgique pour visiter leur famille en voyage d'affaires, pour visiter en tant que touriste la Belgique, sont les bienvenus, mais pour pouvoir faire ça, il y a les procédures. Donc on peut demander un visa court séjour pour pouvoir faire ça, et les gens qui suivent les règles sont bien sûr les bienvenus.
Anneline Van Bossoit, je vous remercie.
Avec plaisir.
Merci à notre invitée Anneline Van Bossoit, ministre belge de l'asile et de migration, pour cet échange consacré notamment à la hausse des demandes d'asile des ressortissants congolais en Belgique et aux axes de coopération entre Bruxelles et Kinshasa. Entretien à retrouver avec Donna Madimba. C'était la grande édition des 18h sur Radio Capi, présentée par Gisèle Cage. Mise en onde, Dieudonné Nyangasa. Merci de nous avoir accordé votre écoute. L'information se poursuit avec la même rigueur et la même exigence au-delà des ondes sur nos plateformes numériques. Radio Capi, des informations crédibles et vérifiées à retrouver sur www.radiocapi.net ainsi que sur nos réseaux sociaux. Ne quittez pas, Radio Capi continue sur la même fréquence.